Europe 1. 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
En ce mois d'avril 1820, voguons ensemble sur la mer Égée, dans l'archipel des Cyclades, cap sur l'île de Milo, à l'époque, alors sous domination ottomane. Nous ne sommes pas seuls. Une goélette de la flotte française est à l'ancre dans la baie. Un élève de marine de 24 ans, Olivier Voutier, se promène sur l'île. Délaissant un temps sa mission de protéger les intérêts commerciaux de la France, il se lance dans une chasse au trésor. Il se passionne pour une science nouvelle, l'archéologie. Non loin du théâtre antique, Voutier entend des coups de pioche. Un paysan grec, qui répond au nom de Yorgos Kentrotas, remue le sol à la recherche de pierres pour bâtir un mur. C'est alors qu'il fait une incroyable découverte dans les décombres. Une statue de femme. Il lui manque les bras, le pied gauche, un bout du nez et la lèvre supérieure. Nue jusqu'aux hanches, un drapé couvre ses jambes. Subjugué, Voutier sort alors son carnet de croquis et dessine la trouvaille. Il en est sûr, c'est Vénus, la déesse de la beauté. Le bouche à oreille va bon train. Le vicomte Marcellus sait que son patron, le marquis de Rivière, ambassadeur de France à Constantinople, veut impressionner le roi de France, Louis XVIII. Quoi de mieux qu'une statue grecque? Mais il n'est pas le seul à avoir cette idée de cadeau. Lorsqu'il arrive sur l'île de Milo, la statue est déjà en train d'être chargée dans une chaloupe en vue de rejoindre les cales d'un navire ottoman. Le prêtre, Oikonomos, soupçonné de détournement de fonds, est en disgrâce auprès du drogman, le chef de l'arsenal de Constantinople. Pour se racheter, il compte bien lui livrer la statue. Heureusement pour Marcellus, le vent tourne en sa faveur. La météo empêche Oikonomos de mettre les voiles. Avec de solides arguments, parmi lesquels la participation d'un Français à la découverte et le soutien de la France en cas d'attaque de l'Empire ottoman, le vicomte parvient à convaincre le Conseil des sages de l'île de Milo. Après un long voyage et de multiples escales, la Vénus de Milo arrive à Paris. Le marquis de Rivière l'offre au roi dans son palais des Tuileries. Le 1er mars 1821. La statue est ensuite accueillie à bras ouverts au musée du Louvre par Auguste de Forbin, directeur des musées de France. Son arrivée tombe à pic. 6 ans plus tôt, quand Napoléon Ier a abdiqué, la France a dû rendre les chefs-d'œuvre saisis en Allemagne et en Italie. Vidé de ses œuvres, le Louvre a perdu ses antiques, le Laocoon, la Vénus de Médicis et l'Apollon Belvédère. Une perte considérable pour la capitale des Beaux-Arts, surtout que les antiques sont remises à la mode par le père de l'histoire de l'art, Johann Winckelmann. L'arrivée providentielle d'une Vénus de l'âge d'or classique pourrait concurrencer les marbres du British Museum ou du Vatican. Au XIXe siècle, les musées deviennent un enjeu de compétition et une démonstration de puissance. Un état de premier plan se doit d'avoir un musée de renommée mondiale. La Vénus de Milo a bien mérité qu'on lui refasse une beauté. Son marbre blanc de Paros retrouve tout son éclat. Depuis le XVIIe siècle...
Votre villa aussi, elle est en marbre blanc de Paros, Stéphane?
Non, vous savez, le marbre était réservé pour les statues antiques.
Bien sûr.
Notre pauvre maison...
Votre bicoque, même.
Nos bicoques sont en torchis.
En torchis, oui, on va dire ça.
Depuis le XVIIe siècle, la tradition veut qu'on restaure intégralement les œuvres. Et la question est... Va-t-on lui ajouter des bras? Les conservateurs, quant à eux, s'arrachent les cheveux pour répondre à la question. Son identité n'étant pas encore vérifiée, malgré la conviction de Voutier, qu'est-ce qu'on pourrait bien lui mettre entre les mains? Un trident, si c'est une amphitrite? Un arc, si c'est Artémis? Une amphore, si c'est Danaïde? Une lyre, si c'est une muse? Une pomme, un miroir, une colombe, une couronne, si c'est bien Vénus? Pas tout ça en même temps, évidemment. Pour éviter de se tromper, la décision est prise de la laisser sans bras. La belle a toutefois droit à quelques ajouts. Un nez, un pied gauche et le gros orteil du pied droit. Grâce à d'autres trouvailles, à l'endroit de la découverte, les statues d'Hermès et d'Hercule, ainsi qu'une pomme taillée dans la même pierre, les experts confirment qu'il s'agit bien d'une Vénus. Trous et parties métalliques sur sa peau diaphane permettent d'affirmer que la belle était parée de bijoux. Boucles d'oreilles, bracelets et diadèmes. A-t-elle toujours eu grise mine? Rien ne permet de l'affirmer, mais sa chevelure pourrait être colorée en doré et ses lèvres peintes en rouge. La Vénus de Milo est exposée au Louvre à partir de mai 1821. Le public est conquis. Artistes et collectionneurs défilent pour l'admirer, la croquer ou lui dédier un poème. Rodin, Rilke, Cézanne, Delacroix ne s'inspirent-ils pas du drapé de la Vénus pour sa Marianne guidant le peuple ? Marbre sacré, vêtu de force et de génie, déesse irrésistible au port victorieux, pure comme un éclair et comme une harmonie, ô Vénus, ô beauté, blanche mère des dieux, écrit le comte de Lille dans ses poèmes antiques. Il y a dans son expression quelque chose de féroce, et pourtant je n'ai jamais rien vu d'aussi beau, s'extasie encore Mérimée. Ô Vénus, quel âge as-tu ? Lors de l'expertise, Forbin l'attribuait à un classique, peut-être Phidias ou Praxitèle. Après moult tergiversations, son âge est établi au XXe siècle. Constitué de deux blocs indépendants, de la tête jusqu'aux hanches et des hanches jusqu'aux pieds, elle est soit une copie d'un original grec disparu, soit une statue librement inspirée à la manière des maîtres anciens. La Vénus de Milo date donc de l'époque hellénistique, celle qui suit l'époque classique et les conquêtes d'Alexandre le Grand. Si on sait désormais qui elle est, vous allez voir que la Vénus de Milo a connu son parcours mouvementé. C'est vrai que la Vénus de Milo est exposée au rez-de-chaussée du musée du Louvre. Il est difficile de trouver une place à cette statue qui, du haut de ses 2 mètres et lourde de 950 kilos, fait de l'ombre à ses voisins. On la déplace à droite, à gauche. En 1870, la guerre l'emmène hors des murs du Louvre. Le directeur du musée a la bonne idée d'évacuer la Vénus vers la préfecture de la Seine. On la démonte pour l'occasion et elle bénéficie alors d'une seconde restauration. En 1914, la Première Guerre mondiale approche. Que faire ? La déplacer, c'est courir un risque certain, alors que les bombardements et les incendies sont hypothétiques. La décision est finalement prise de l'évacuer vers Toulouse. Quand la Vénus rentre de son séjour dans la ville rose après la guerre, les visiteurs du Louvre se demandent si c'est un faux. Les Allemands ont tout pillé, c'est sûr. Mais non, c'est bien la véritable Vénus de Milo que les dirigeants peuvent admirer lors de la conférence de paix qui se tient à Paris. Branle-bas de combat encore en 1939. La Seconde Guerre mondiale approche. Il faut mettre les œuvres du Louvre à l'abri. Le futur directeur des musées nationaux, Jacques Jaujard, fait des pieds et des mains pour sauver le patrimoine artistique de la France. Prisonnière des circonstances, la Vénus de Milo est encordée, déplacée en lieu sûr au château de Valençay, dans le Berry, où elle reste jusqu'à la fin du conflit. Mission réussie. Le seul voyage long courrier qu'effectue la Vénus de Milo l'emmène au Japon, à Tokyo puis à Kyoto, en 1964. Contre l'avis des conservateurs, le ministre de la Culture, André Malraux, veut qu'elle accompagne la visite du Premier ministre Georges Pompidou. Le trajet en bateau d'un mois secoue la Belle qui arrive accidentée sur le port de Yokohama. En urgence, les marbriers du Louvre la rejoignent pour une restauration express. Près de 100 000 Japonais ont ensuite la chance de l'admirer. Mais l'expérience ne sera jamais renouvelée. Depuis son séjour nippon, la Vénus de Milo n'a plus jamais quitté le Louvre. Mais elle voyage dans l'imaginaire grâce à l'excentricité des artistes, à l'instar de Dali qui inverse son nez, son oreille gauche, ou de Niki de Saint-Phalle qui, vêtu d'un costume napoléonien, fait une série de tirs de peinture rouge et noire sur un moulage de la statue. Dans Le Dictateur de Charlie Chaplin en 1940, la Vénus fait carrément un salut nazi. On la préfère sans bras, parce qu'avec des bras, la Vénus de Milo aurait forcément suscité beaucoup moins d'engouement. Oui, c'est bien son mystère qui a créé son mythe.
Europe 1, historiquement vôtre.